Bonjour Xavier Martinet.
Et bonjour Jacques.
Car à 6h45, évidemment, c'est l'heure des enjeux internationaux.
Et les enjeux internationaux qui parlent aussi d'un changement d'époque, hein, puisque l'ancien président Lula est définitivement hors jeu pour la présidentielle au Brésil. Son remplaçant, Fernando Haddad, a été désigné hier par le Parti des Travailleurs. C'est donc un nouveau rebondissement après l'agression au couteau du candidat de droite Jair Bolsonaro la semaine dernière. Et à 3 semaines maintenant du premier tour, on en parle donc avec vous, Lise Ferré. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous êtes enseignante en sciences de la communication à l'Université Paris 3, ancienne correspondante à Paris 8, et ancienne correspondante de Au Globo. Alors cette décision du Parti des Travailleurs et de Lula, elle vient relancer une étrange campagne quand même où les deux principaux favoris étaient en prison pour Lula et à l'hôpital pour Jair Bolsonaro. Ce dernier député candidat de droite dure tente ce qu'on pourrait appeler une OPA, une lente ascension sur le sentiment d'insécurité et sur la polarisation extrême de la société brésilienne ces dernières années à la faveur des scandales de corruption. Le Parti des Travailleurs, lui, déjà évacué du pouvoir après la destitution de Dilma Rousseff, tente, lui, une réhabilitation. En tout cas, c'est une situation inédite puisque sans son icône, hein, le Parti des Travailleurs, incarnation du progressisme ou d'un certain progressisme, pourrait perdre pour la première fois de son histoire au premier tour. Ça dénote une certaine désaffection de la gauche, un retour de la droite, une trajectoire assez normale en Amérique latine, mais particulièrement exacerbée au Brésil, où l'émergence d'une partie pauvre et minorée de la population était l'enjeu des années Lula, sans compter le rôle international du pays, qui semble évaporé avec la crise politique. Fini les grandes figures, donc Lula Dilma, justement, Lise Ferré, ce candidat, Fernando Haddad, on le connaît peu, c'est l'ancien maire de São Paulo, il a été ministre de l'éducation de Lula, mais c'est pas forcément une figure très connue au Brésil. Non plus.
Non, hélas. Et à ce propos, je pense que les stratégies politiques du PT a été très risquée du fait que Haddad, il était à l'ombre de Lula pendant tout ce temps-là. Et ça ne les a pas favorisés puisque Haddad d'ailleurs n'a pas participé au débat. C'est hier que Lula s'adresse à ses partisans pour demander à ce qu'on vote pour Haddad en rappelant un petit peu son parcours très brièvement. Mais le fait est qu'on est un peu encore sur la figure emblématique de Lula et on a très peu d'éléments précis vis-à-vis d'Haddad, ce qui est très dangereux pour le PT.
Et un signe d'ailleurs, c'est que je disais, il a été désigné, Haddad, il a été quasiment adoubé même par Lula, puisque c'est lui qui s'est désisté en disant, voici le candidat, je vous le présente.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Après, Haddad, il a un parcours qui est intéressant. C'est un homme cultivé. C'est un politicien qui a à son compte, par exemple, les quotas pour l'intégration d'un nombre un peu plus important de, même si c'est pas assez, des Noirs à l'université. Les Noirs et les Métis. Il y a eu d'autres. Il y a des données qui sont importantes, mais le problème c'est qu'Haddad, c'est un personnage qui n'a pas énormément de charisme, et c'est difficile de passer après Lula aussi. Hein. C'est.
Alors, est-ce que ça veut dire que sans Lula, le Parti des Travailleurs est mal en point et même fini, puisque Lula c'était virtuellement, je crois, 38-39% des intentions de vote quand même. Haddad, là, il me semble que il est passé de 4 à 9%, quelque chose comme
tout
ça.
Tout à fait. C'était ça la mauvaise stratégie à mon sens, parce que on comptait sur Lula qui serait au même niveau de Jair Bolsonaro et puis avec Ciro Gomes toute proche. Et là, avec la sortie de Lula de la course, Haddad il descend quand même pas mal, puisqu'on entre guillemets, on le connaît pas. il est nouveau sur la scène et il n'a pas pris la parole à son nom. Donc il n'a pas pu faire son scénario, il n'a pas pu poser son décor.
Et à contrario, s'il y en a un qui a pu briller et se poser comme un candidat, disons sérieux, face à d'autres candidats, c'est ce Jair Bolsonaro, donc ex-capitaine, candidat militaire. Si on parle juste de la conjoncture, donc il a été poignardé la semaine dernière et on voit qu'il vient de gagner 2 points dans les derniers sondages. Est-ce qu'il y a un effet martyr? Il faudrait le voir aussi simplement que ça.
Je voudrais rebondir sur un mot que vous avez prononcé, c'est sérieux. Non, je pense pas du tout que ses interventions soient sérieuses, malheureusement pour le pays. C'est un personnage qui est une caricature de la droite dure et puis qui n'a vraiment pas de propositions à faire, si vous voulez. Et il a effectivement gagné un peu d'espace et il a pu faire sa place parce que il y a une montée des conservateurs au Brésil, notamment auprès des jeunes personnes qui n'ont pas la mémoire forcément présente de l'époque de la dictature militaire, par exemple, et puis des atrocités qui a pu être commises, et puis ça bascule aussi vers les conservateurs de l'Église, par exemple, qui sont derrière lui. Je pense que le fait qu'il soit poignardé, il y a un effet d'émotion et de, entre guillemets, d'empathie du fait qu'il a été agressé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit condamner dans un pays démocratique encore, et je l'espère que ça continuera, mais avec une démocratie si fragile que la brésilienne.
Et quand je disais candidat sérieux, c'était peut-être plus parce qu'il se démarquait dans le discours par rapport au programme, parce qu'effectivement, il a un discours très autoritaire qui séduit, alors que de l'autre côté, si on voit les deux débats télévisés, quels que soient les journaux, ils sont pas très élogieux. Un désert d'idées et de projets, disait un journal pour le premier, des candidats au ton professoral, une Marina Silva, donc ancienne ministre, qui semble en circuit fermé, disent certains journaux. En gros, est-ce que c'est pas parce que les autres n'ont pas de programme ou qu'ils n'ont pas réussi à le passer lors de ces fameux débats télévisés?
J'ai l'impression que c'est pas une question de que les autres n'aient pas de programme pour faire face. J'ai l'impression que le fait qu'il ait monté dans positivement auprès d'un certain nombre de Brésiliens, c'est cette montée de moralisme, si on peut dire ça comme ça, qui retrouve un écho qui est très important, hein, il faut le rappeler. Et donc je pense que il est juste un amplificateur des discours que les Brésiliens ont envie d'entendre en ce moment. Et c'est pour cette raison. Et donc je crois que trois mots peuvent définir cela, qu'il utilise énormément, c'est Dieu, c'est patrie et famille. Et donc, en utilisant ces mots en boucle comme ça, ça va auprès des personnes qui sont conservatrices, des familles, et surtout les classes dominantes, parce qu'il faut en parler que le Brésil est très fragmenté par les classes sociales. Enfin. Par la hiérarchisation des classes sociales. Et après, il y a ce fameux nombre important de la population, si on peut dire ça, de personnes qui retrouvent dans ce discours quelque chose de rassurant.
Et en deux mots, alors, s'il y avait deux options pour cette séduction ou ce retour moraliste au Brésil, qu'est-ce que c'est? C'est que les militaires se positionnent, il y a plus de 257% de candidats par rapport à 2014 dans ces élections, c'est un besoin d'ordre face à l'insécurité, ou c'est la volonté du maintien d'une société un peu de classe et hiérarchisée au Brésil?
Un discours pour faire face en ce moment, c'est un peu difficile parce que on a l'impression qu'il y a, et si j'ai bien compris la question, on a l'impression que le pays est divisé. Que pour la présidentielle, il est divisé entre deux blocs, ceux qui sont contre l'OPT et ceux qui sont pour.
Le PT. Eh bien, justement, on aura l'occasion de suivre les aventures du Parti des Travailleurs et puis des autres candidats d'ici ces 3 semaines avant la campagne. Merci beaucoup, Lise Ferré, professeure à l'Université Paris 8.